que parce qu'elle est capable de Dieu. Que parce qu'elle est capable de Dieu et faite à son image. Or, cela, c'est l'intelligence ou l'esprit qui le lui donne. Selon cette parole de l'Épître aux Éphésiens, renouvelez-vous dans l'esprit de votre intelligence. Renovamini spiritu mentis vestrae. Vous voyez, la traduction est un peu libre. Parce que pour l'intelligence, il y a spiritus et mentis. Ça, c'est pas commode. Et renouvelez-vous dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelez-vous par l'esprit de votre mince. Alors, la mince, c'est difficile à traduire. Qu'est-ce que c'est exactement? Dire l'intelligence, je veux bien, mais vous voyez, l'esprit est mince, c'est très très proche. Mais c'est évident que l'intelligence est comprise dedans. Donc on peut traduire ça, c'est pas faux de traduire comme ça, mais c'est une petite interprétation. Hein. De même, l'intelligence est de toutes les parties de l'âme la plus haute, la plus digne et la plus semblable à Dieu, dans l'ordre de la dignité. Dans l'ordre de la dignité, on a ici le nous. Et bien, intelligence. Donc je peux dire, par le nous, l'âme est assumable. Et par l'âme, le corps est assumable. Vous voyez ? Mais comprenons bien que ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est une analogie, donc, qui ne porte pas sur tous les points. Ça porte du côté de la dignité. De même, l'intelligence est de toutes les parties de l'âme la plus haute, la plus digne, la plus semblable à Dieu. L'on peut donc dire avec Damasène, le Verbe de Dieu s'est uni à la chair par l'intermédiaire de l'intelligence. L'intelligence est en effet la partie la plus pure de l'âme. Or Dieu est une très pure intelligence. Vous voyez, c'est intéressant à bien voir. Première objection. Une même réalité ne peut être intermédiaire entre elle-même et autre chose. Or, l'esprit ou l'intelligence n'est pas autre chose essentiellement que l'âme elle-même. Toute la grande question du De Anima d'Aristote, hein, le rapport entre la psyché et le nous. C'est très très difficile, hein, philosophiquement très difficile, surtout dans un certain contexte platonicien ou néoplatonicien. Le Fils de Dieu n'a donc pas assumé l'âme par l'intermédiaire de l'esprit ou de l'intelligence. Réponse. L'intelligence ne se distingue pas essentiellement de l'âme. Aliud anima secundum essentiam. Donc, c'est plus précis. L'intelligence n'est pas autre que l'âme selon les sens. Hein? C'est beaucoup plus fort. Mais comme puissance, elle se distingue des autres parties de l'âme. Et en ce sens, il lui revient d'être intermédiaire. Distinguitur tamen abalis partibus animae secundum rationem potentiae. Alors là, vous voyez, ça c'est tout l'aristotélisme qui passe dedans. C'est toute l'étude du De Anima qui est là présente. Hein. Et pour essayer de préciser quels sont les rapports de l'âme et de l'intelligence, c'est nécessaire de dire un mot pour que vous compreniez cette petite distinction que fait Saint-Anna. C'est une distinction subtile, surtout si on ne voit pas. Ce qu'est et nous, ça, alors l'âme. L'intelligence. Alors, l'âme et l'intelligence, quel est son rapport entre les deux? Vous voyez que saint Thomas a dit qu'on ne peut pas dire que le nous est autre, secundum essentiam, de l'âme. Et pourtant, dans l'analyse de saint Thomas, le nous a ratio potentia. L'intelligence est considérée comme une dynamis, comme une puissance. Une puissance opérative, ordonnée à l'opération qui est la pensée, qui est l'intelligence, pensée. Tandis que psuché, c'est dans le substantiel, c'est l'ousia, c'est la substance. Alors, le nous, l'intelligence, provient de l'intelligence. Provient de la substance, provient de l'âme. Comme une faculté, comme une puissance, émane de la substance, de ce qu'il y a de radical. Puisque qui dit substantiel dit quelque chose de radical. Tandis que la puissance ne dit pas quelque chose de radical. C'est une qualité. Donc vous retrouvez la distinction entre substance et qualité. Et vous voyez donc que c'est autre que la substance, le nous. Si vous étiez dans la perspective néoplatonicienne, vous auriez psuché et nous. Le nous représenterait une autre substance, la substance intellectuelle. Alors à ce moment-là, l'âme et le nous sont autres au point de vue substantiel. Et alors on comprend très bien comment, dans l'ordre de dignité, on dirait oui, c'est par le nous que l'âme est assumée. Et comprenons bien, par le nous, l'âme est assumée. Oui, en comprenant que le nous exprime ce qui, dans l'âme, est capax dei. Ce qui, dans l'âme, est capable d'atteindre immédiatement Dieu. Or, c'est par là que l'âme est assumable. Et c'est par là que l'âme peut jouer ce rôle de faire que le corps est assumable. N'est assumable que ce qui est capable d'atteindre immédiatement Dieu. Alors, vous voyez, il faut bien saisir cette petite distinction subtile, mais qui est toute la distinction entre l'aristotélisme et le néoplatonisme. De comprendre ratio potentiae et la substance. La distinction entre ce que représente une puissance opérative, ordonnée donc à l'opération, ordonnée à l'opération, au fait de penser, et puis la substance. La substance n'est pas immédiatement ordonnée à l'opération. Elle est ordonnée à l'opération par la ratio potentiae. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait la même chose, vous voyez, le rapport qui existe entre l'âme et le corps et l'âme et l'intelligence. On passe à deux niveaux différents. Seconde objection, ce qui est moyen d'assomption semble devoir être lui-même plus assomptible. Mais l'esprit ou l'intelligence n'est pas plus assomptible que l'âme. Et la preuve en est que les esprits angéliques ne sont pas assomptibles. Comme il a été dit. Hein. Le Fils de Dieu n'a donc pas assumé l'âme par le moyen de l'esprit. Alors, ce n'est pas par défaut de dignité que l'esprit angélique est inapte à l'assomption, ce qu'il a dit, mais parce que sa faute est irréparable. Or, on ne peut pas en dire autant de l'esprit humain. C'est comme la petite distinction qui a été dite précédemment. L'ange peut être assumé au point de vue de la dignité, c'est sûr, et capax dei, comme un esprit. Mais la finalité de l'assomption du mystère de l'incarnation n'y est pas, puisque les anges qui ont péché ne peuvent pas être sauvés. Ils demeurent dans leur péché. Troisième objection, le moyen d'assomption doit être antérieur à ce qui est assumé. Mais par l'âme, nous entendons l'essence elle-même, qui est logiquement antérieure à sa puissance, à savoir l'intelligence. Il ne semble donc pas que le Fils de Dieu ait assumé l'âme par l'intermédiaire de l'esprit d'intelligence. réponse, par l'âme qui a l'intelligence pour intermédiaire entre elle et le Verbe de Dieu. Nous n'entendons pas l'essence de l'âme commune à toutes les puissances, mais seulement les puissances inférieures communes à toute l'âme. Donc, dicendum quod anima interquam et dei verbum ponitur medium intellectus, non accipitur pro essentia anime, qui est omnibus potentiis communis. Oui, donc là, l'objection montre qu'il y a deux ordres différents. Il y a, dans un ordre substantiel, c'est par l'âme que le corps est assumé. Dans un ordre de proximité, de dignité par rapport à Dieu, je peux dire que c'est par l'intelligence que l'âme est assumée. Que l'âme va jouer ce rôle d'être métaxu par rapport au corps. Troisième article, l'âme a-t-elle été assumée par le Fils de Dieu avant la chair? Alors là, vous retombez dans la question du temps. C'est pour ça que c'est facile, ça. Je vais tout de suite déconclure. Damasène écrit, l'intelligence n'a pas été unie au Dieu Verbe, comme certains le prétendent mensongèrement, avant l'incarnation qui s'est faite de la Vierge et à partir de laquelle le Fils de l'homme s'est appelé le Christ. Origène a prétendu que toutes les âmes avaient été créées dès le principe et parmi elles l'âme du Christ. Il n'en peut être ainsi cependant, car si l'on admet qu'elle fut créée à ce moment sans être aussitôt unie au Verbe, il s'ensuit qu'à un moment donné, cette âme a eu une subsistance propre. Et quand elle a été assumée par le Verbe, ou bien l'union ne s'est pas faite sous le rapport de la subsistance, ou bien la première subsistance de l'âme a été détruite. On aboutit à un inconvénient semblable si l'on admet que, dès le principe, l'âme a été unie au Verbe, et qu'ensuite elle a été incarnée dans le sein de la Vierge, car alors l'âme du Christ ne semblerait pas être de même nature que les nôtres qui sont créés et unis au corps en même temps. De là cette parole du pape Saint Léon, sa chair n'est pas d'une nature différente de la nôtre, son âme n'est pas vivifiée par un principe différent de celui des autres hommes. Donc, je crois que ça, c'est facile à comprendre. C'est impossible. Hein. Mais alors, évidemment, derrière, il y a Origène. Vous voyez, c'est pour ça que cet article existe. C'est pour répondre à Origène. Pour répondre à Origène, qu'on ne peut pas penser que l'âme ait été créée avant d'être unie au corps. Et qu'on ne peut pas penser que l'âme soit assumée par le Verbe de Dieu, l'âme spirituelle, indépendamment du corps. Oui, et ce serait réintroduire dans l'ordre du temps un certain ordre. On a vu que dans l'ordre du temps, il n'y avait pas d'ordre. Article 4. La chair du Christ a-t-elle été assumée par le Verbe avant d'être unie à l'âme? Tout ça, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a compris ça. C'est plus que des conclusions. Hein. Mais on les voit rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a encore combien de temps? 10 minutes? 20 minutes? Ah bon, très bien. Alors peut-être, on va pas. Parce que je ne crois que ça n'offre aucune difficulté. L'union du Christ a-t-elle été assumée par le Verbe avant d'être unie à l'âme? On a déjà répondu. La chair comme telle n'est pas assumable. Donc la chair ne peut pas être assumée avant d'être unie à l'âme. Vous voyez tout le problème pour saint Thomas. Hein. Parce que pour lui, alors, dans la perspective habituelle, n'est-ce pas, l'âme n'est pas créée immédiatement au moment de la conception. Alors, il y a un cas tout à fait particulier pour le Christ. Dans la perspective de saint Thomas. Pour nous, au contraire, je ne dis pas que c'est un argument pour dire que l'âme est créée dès le premier moment de la conception, mais c'est comme ça pour le Christ, ça ne peut pas être autrement. On peut lire, si vous voulez, vite l'article, le corps de l'article. Damascène écrit « C'est dans le même temps que la chair est devenue chair du Verbe de Dieu et chair animée d'une âme rationnelle et intellectuelle. L'union du Verbe à la chair n'a donc pas précédé son union à l'âme. » Corps de l'article, « La chair humaine est assomptie par le Verbe en vertu du rapport qu'elle soutient avec l'âme rationnelle, qui est sa forme propre. Mais elle ne possède pas ce rapport avant d'être unie à l'âme rationnelle, car une matière ne devient matière propre d'une forme quelconque que lorsqu'elle reçoit cette forme, et de là vient que l'altération n'est achevée qu'au moment même où la forme substantielle est introduite. C'est pourquoi la chair ne devient pas être assumé avant d'être devenu chair humaine, c'est-à-dire avant d'être unie à l'âme rationnelle. De même donc que l'âme ne pouvait être assumée avant la chair, ainsi qu'il est contraire à la nature de l'âme d'exister avant d'être unie au corps, de même la chair ne pouvait être assumée avant l'âme, parce qu'elle n'est pas. Elle n'est chair humaine que lorsqu'elle possède une âme rationnelle. C'est très joli le parallélisme que fait saint Thomas. Pour montrer que c'est l'union de l'âme et du corps, c'est l'âme unie au corps qui fait qu'on est en présence de la nature humaine, qui est assumable. Ce n'est ni l'âme séparée, ni la chair séparée. C'est les deux unis qui forment la nature humaine. Et c'est elle qui est assumable. Article 5, la nature humaine, dans sa totalité, a-t-elle été assumée par l'intermédiaire des parties ? Ça aussi, ça c'est intéressant, ça revient à la question précédente, la ratio potentiae, puis le point de vue de la substance. Qu'est-ce qui est assumable ? La substance ou les puissances ? Vous voyez ? Donc là, il y a un point de vue théologique intéressant. Damascène écrit en notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'envisageons pas les parties des parties, mais seulement les composants immédiats, c'est-à-dire la divinité et l'humanité. Or, l'humanité est un tout composé de l'âme et du corps, qui sont ses parties. Le Fils de l'homme a donc assumé les parties par l'intermédiaire du tout. Alors, ça, c'est magnifique, hein. Vous brouillez tout, à la partie et tout. Là, c'est le tout, c'est par le tout que vous avez assumé les parties. Alors que vous avez vu précédemment. C'est très, très joli. C'est l'aller-retour. Alors, les arbres sont vus d'autrement. Quand on parle d'intermédiaire dans l'assomption de l'incarnation, il ne s'agit pas d'un ordre temporel. On l'a vu tout à l'heure, hein. In instanti. Car l'assomption du tout et de ses parties s'est faite en même temps. Nous avons vu en effet qu'au même instant, le corps et l'âme ont été unis pour constituer la nature humaine dans le Verbe. Il s'agit ici seulement d'un ordre de nature. Donc nous retrouvons. C'est pour ça que ces deux articles sont parallèles, hein. Ils sont intéressants à ce point de vue-là. Il s'agit ici seulement d'un ordre de nature et de ce qui est postérieur en nature est assumé par l'intermédiaire de ce qui est premier. Mais la priorité de nature est double. Alors vous retrouvez encore ici une distinction dans l'ordre. Selon que l'on se place du côté de l'agent ou du côté de la matière. Donc, ce n'est plus l'ordre de dignité et l'ordre de causalité ici, c'est le point de vue du côté de l'agent ou du côté de la matière. Ces deux causes, en effet, préexistent à l'effet. Du côté de l'agent est absolument premier ce qui se trouve dans son intention, n'est premier que relativement ce qui constitue le point de départ de l'opération. L'intention est antérieure, en effet, à l'opération. du côté de la matière est premier ce qui se trouve au début de la transformation de la matière. Or, dans l'incarnation, ce qu'il faut surtout considérer, c'est l'ordre du côté de l'agent. Car, comme l'écrit saint Augustin, en ces sortes de choses, toute l'explication de l'œuvre se trouve dans la puissance de celui qui opère. D'autre part, il est manifeste que dans l'intention de celui qui opère, l'achevé est antérieur à l'inachevé, et donc le tout au parti. Par conséquent, il faut reconnaître que le Verbe de Dieu a assumé les parties de la nature humaine par l'intermédiaire du tout. De même, en effet, qu'il a assumé le corps à cause du rapport qu'il soutient avec l'âme rationnelle, de même il a assumé le corps et l'âme à cause du rapport qu'ils ont avec la nature humaine. Alors, j'espère que vous saisissez. Hein. C'est assez subtil, là encore, vous voyez ces deux articles. On est dans une analyse théologique. Hein. Alors, comme on est dans une analyse théologique, on essaie de comprendre... Par l'âme, il assume le corps. Par le tout, il assume une partie. On va bien saisir ce point de vue-là. C'est intéressant parce qu'à première vue, ça semble contradictoire. Alors que ça ne l'est pas. Ce n'est pas du tout contradictoire. C'est deux points de vue qui se précisent l'un par rapport à l'autre. Premier article. Le corps est assumé par l'intermédiaire de l'âme. Et nous avons vu comment le comprendre par l'ordre de dignité, l'ordre de causalité. Puisque le corps n'est assumable que par l'âme. Deuxième, ici. Deuxième, le. Les parties sont assumables par le tout. À première vue, vous comprenez, on se dit quoi ? Non, ça ne va pas. L'âme, c'est parti, mais le corps aussi est parti. Alors vous avez partie. Hein, partie substantielle. C'est évident. Et c'est par l'âme que le corps est assumable. Tandis qu'ici, c'est les parties qui ne sont plus des parties substantielles, qui sont les parties de l'âme, qui sont les parties du tout. Vous avez dans l'ordre. L'homme concret, individuel, individualisé, c'est un tout. Évident, on est un tout, un composé. Alors, c'est le tout ici. Le tout implique quoi ? Âme et corps. C'est l'âme et le corps, c'est les deux. Par l'âme, le corps est assumé. Dans une unité substantielle, l'unité substantielle entre l'âme et le corps. Donc ce tout est assumé avant les parties, c'est sûr. Les parties ne sont assumables que par le tout. Et donc c'est bien par le tout que les parties vont s'assumer. Ici, les parties, ce sont les éléments, on pourrait dire ça, oui. C'est des parties matérielles, en quelque sorte, même si elles sont spirituelles. Elles sont parties matérielles, elles sont des éléments du tout. Et donc, c'est par le tout que les parties sont assumables. Donc, vous voyez que les deux articles se situent, là encore, à des niveaux différents. Et alors, parce que ça se situe à des niveaux différents, à première vue, ça peut paraître contradictoire, mais non, on est devant... L'âme qui assume le corps, c'est le corps qui est à fond. L'âme, c'est une partie, c'est évident que c'est une partie substantielle. Tandis qu'ici, ce sont des éléments. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est parce que le mot partie, vous voyez, peut sembler pour nous deux choses différentes. Alors, ce qui est intéressant à voir, hein, c'est que saint Thomas emploie une distinction différente quand il s'agit de l'article l'âme. C'est par l'âme que le corps est assumé. Et il prend à ce moment-là l'ordre de la dignité, l'ordre de la causalité. Dans l'ordre. Ici, il s'agit seulement d'un ordre de nature et ce qui est postérieur en nature est assumé par l'intermédiaire de ce qui est premier. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de nature? L'ordre de nature, l'ordre de perfection. C'est le tout, comparativement aux parties, qui sont des parties élémentaires. Oui. Donc, c'est bien par le tout que le point de vue des parties est assumé. Alors, on peut le considérer selon du côté de l'agent ou du côté de la matière. Du côté de la matière, on ne le considère pas. On ne le considère que du côté de l'agent. Donc, du côté de l'intention de l'agent, selon de nature. Or, l'agent regarde le tout dans l'intention. C'est la nature humaine qui est assumée. C'est pas un pied, une jambe. Non, c'est pas ça. C'est la nature humaine qui est assumée. C'est pas une intelligence, c'est la nature humaine qui est assumée. C'est pas une volonté, c'est la nature humaine qui est assumée. Oui, selon l'intention de l'agent. Donc c'est le tout qui assume les parties. Oui.
Quelle est la différence entre l'ordre selon le temps et l'ordre selon la nature du côté de la matière?
Ah, c'est justement pour ça qu'il est ce qu'on met la matière. C'est exactement ça. Parce que si vous retrouviez le point de la matière, vous retrouviez le point du temps. Oui. Parce que ce serait le devenir. Oui, alors c'est pour ça qu'il est ce qu'on met. Forcément, ça se recoupe. Oui.
Est-ce que l'élément n'a pas une certaine priorité indépendamment du temps?
Non, pas une priorité selon ça, l'ordre de nature.
Non, pas dans l'ordre de nature, mais dans l'ordre de la
matière. Ben, du temps, mais justement, comme il n'y a pas de temps.
Non, pas dans l'ordre du temps, dans l'ordre de la matière, se distinguant du temps.
Mais non, pas
indépendamment
du
temps. De la matière. Par exemple, Aristote, dans le livre de Zeta, dit que le cœur a une certaine priorité parce qu'il est un organe sans lequel la vie ne peut pas exister.
Mais oui, mais c'est évident, mais faites attention, mais alors vous retombez dans le devenir.
Dans le conditionnement.
Mais le conditionnement, alors justement, il l'a supprimé.
Mais alors, extraire le matériel, c'est nécessairement le conditionnement.
Oui, mais justement, mais il le supprime, il ne le donne pas, là. Il n'en parle pas. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire, là. C'est ça que je viens de dire. C'est que, de fait, hein, vous pouvez regarder le point de vue des éléments et du tout de deux manières différentes. Ex parte materiae, ex parte agentis. Du côté de la cause efficiente, du côté de la... Alors, certainement dit textuellement ici, hein, du côté de l'agent. D'autre part, il manifeste l'intention. Alors, regarde, de même, en effet, qu'il a assumé le corps à cause du rapport. Et du côté de la matière. Hein, cherchez bien. Du côté de la matière et premier ce qui se trouve au début de la transformation de la matière. Or, dans l'incarnation, ce qu'il faut surtout considérer, c'est l'ordre du côté de l'agent. Donc, il ne traite pas. Et pourquoi il ne traite pas? C'est parce qu'il n'y a pas de temps. C'est à cause de ça. Oui, c'est télescopé par, par un autre point de vue. Il aurait pu le dire, hein. Il ne le dit pas. Oui.
Parce que la matière ne peut pas être considérée comme du côté de la causalité. Exactement. Causalité matérielle. Ce qui fait particulièrement.
Mais du côté de la causalité matérielle, vous retrouvez le point de vue du temps.
Informel ou pas formel?
Ah oui, toujours.
Parce que la causalité n'est pas.
Dites-moi la possibilité de regarder un ordre matériel en dehors d'une question du temps.
Bien analysé. Formellement, on peut le distinguer.
Non, non.
Parce que la causalité.
Formellement, on peut le faire.
La causalité matérielle dans une réalité composée appartient nécessairement à cette
réalité. La causalité matérielle est source du devenir. Et le devenir est toujours mesuré par le temps.
Mais source est devenir. Mais elle en est distincte. Le temps est un accident. Le temps est un accident et la causalité matérielle.
Le devenir est mesuré par le temps. Vous n'êtes pas d'accord?
Tout à fait.
Et dites-moi pourquoi. Le devenir est mesuré par le temps. Alors, pouvez-vous séparer le devenir du temps?
Mais la matière comme étant, selon l'intelligibilité,
la matière, elle est toujours, elle devient à travers le temps. Vous pouvez.
Concrètement.
Quoi?
Concrètement. C'est pas dans la matière. C'est pas dans la matière. On peut distinguer les qualités matérielles sans regarder l'aspect génétique.
Absolument. Mais c'est un principe de l'être physique.
Non, alors vous faites de la matière. Vous faites de la matière un principe premier dans l'ordre de l'être. Est-ce que la matière est principe dans l'ordre de l'être? Non.
Ah non.
La matière n'est pas un principe propre dans l'ordre de l'être. Vous en faites un principe propre dans l'ordre de l'être.
Elle est principe, c'est
lui. Non, elle n'est pas principe dans l'ordre de l'être.
La physique matière est principe.
Vous savez ce que dit Saint Thomas avec Saint Thomas à point de vue. Alors je reprends l'autorité.
Saint Thomas dit que la matière ne peut pas être première dans l'ordre de l'être. Elle ne peut être que co-principe du venir. Donc si elle ne peut être que co-principe du venir, elle est nécessairement mesurée par le temps.
Il ne peut pas être autrement. Autrement, vous refaites de la matière un principe dans l'ordre de l'être. Alors si on refait un principe dans l'ordre de l'être, vous savez bien, c'est Avicenne, c'est Averroès et Lénine. C'est Averroès et Lénine qui font de la matière un principe propre de l'être. Alors là, je serais d'accord avec vous, du moins avec Lénine et Averroès.
Si on peut préciser, la matière n'est pas un principe dans l'ordre de l'être au sens où on prend l'être formellement, mais elle est principe de certaines réalités substantielles.
Dans le devenir.
Oui, dans le devenir, mais ça c'est son mode.
Le mode non, son non, mode. C'est le mode, c'est sa réalité. Je ne peux pas séparer la matière du devenir. Elle est co-principe du devenir. C'est pour ça que je divise la nature en nature forme et nature matière, mais la nature est principe du devenir. Je ne peux pas faire de la nature un principe d'être, autrement je retombe dans la substance.
La fousie, c'est une certaine substance, c'est un historique de
vie. Mais oui, mais elle est une certaine substance, exactement comme vous dites que l'âme est une substance. Oui, mais elle n'est pas la substance.
Formellement, concrètement, oui.
Donc je ne peux pas. Tout, toujours dans l'ordre du venir, je suis dans le temps. Et c'est pour ça que Saint-Thomas laisse tomber, c'est extraordinaire ça. Il laisse tomber. Il laisse tomber parce qu'on retombe dans le point de vue du temps. C'est là. Mais c'est important de soulever le problème, c'est très important de soulever le problème, il faut soulever le problème pour voir comment, pourquoi Saint-Thomas laisse tomber ça royalement. Vous avez tout de suite compris. Il laisse tomber royalement parce que dans l'ordre de la matière comme telle, si je le suis, nécessairement intervient le point de vue du temps. Alors je ne peux plus. Puisque là, il y a un télescopage immédiat quand il s'agit du mystère de l'Assomption. Instantané. Réfléchissez, si vous avez des objections, écrivez-les et on pourra les résoudre. Alors, il y a encore le dernier article, hein, mais le dernier article, nous ne le voyons pas tout de suite.